d'abord un peu situer l'endroit qui a fait l'objet de ce rapport. C'est un endroit qui est au centre du Mali et qui fait l'objet de beaucoup de résurgences, d'attaques djihadistes depuis longtemps. On se souvient l'année dernière que cet endroit de Gofri Nyono avait été pris en otage, si on peut le dire, mis sous embargo par des djihadistes et des narcotrafiquants. Donc cette cohabitation existe toujours entre ces populations et ces groupes armés. Donc d'un moment ou d'un autre, il y a des débordements et c'est que avec la venue des coopérants russes, certains l'appellent Wagner, le gouvernement malien lui-même dit que c'est pas Wagner, que c'est des coopérants russes. On a vu en tout cas que l'armée malienne est beaucoup impliquée en termes de ratissage et d'arrestation de personnes soupçonnées de faire partie des mouvements djihadistes. Et ces personnes sont très généralement de la communauté Peul. Donc il y a eu des exactions, on a eu des photos, même si ces photos sont à vérifier. La Mauritanie aussi a signalé, il faut le dire, que beaucoup de ces ressortissants ont été portés disparus dans cette zone. Maintenant, il va falloir relier ces deux situations. Est-ce que ce n'est pas les mêmes? Si c'est les mêmes, quelle situation a pu réellement engendrer ce désastre-là? Mais il faut le dire, il y a beaucoup de témoignages que nous-mêmes personnellement on a pu avoir sur place qui font état des exactions de la part des hommes qui étaient en tenue de l'armée malienne et accompagnés de certaines personnes qui sont des personnes blanches de caucasiennes qui les accompagnent.
L'organisation accuse vraiment les soldats maliens.
Oui, c'est vrai. Il y a des témoignages qui parlent de l'armée malienne, mais il va falloir que ces témoignages aussi soient corroborés. Parce que là, c'est comme si on en est parti sur le terrain, on a demandé une seule partie. Je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été initiées par le gouvernement malien. Il faut le dire, cet endroit est entouré par une grande forêt, la forêt de Mbou-Ouagadou, qui est infestée de trafiquants de tous bords, qui s'habillent très souvent avec des tenues de l'armée régulière. Les terroristes aussi, les djihadistes, on en a vu beaucoup d'exemples, ont dans le passé utilisé ce même stratagème. Donc il va falloir qu'il y ait une enquête sérieuse. Je crois que l'ONU, la MINUSMA aussi a fait une enquête qui table aussi sur la même lignée qui dit que l'armée malienne est impliquée. Donc moi je crois que c'est très difficile de prononcer là-dessus de façon catégorique, sans qu'il y ait vraiment un recoupage et une sorte de contre-expertise en termes d'enquête. Je crois que le gouvernement mauritanien et le gouvernement malien ont mis en place une commission commune pour pouvoir enquêter là-dessus. Je crois que les résultats de cette enquête pourront faire office de foi, parce que là, il y a deux pays qui se sont mis dessus, quoi.
Pourquoi, malgré l'arrivée des militaires au pouvoir, les attaques contre les civils continuent?
Il faudra dire d'abord, entre le mois de décembre et janvier, il y avait une petite accalmie. Les gens à Bamako avaient même crié victoire, comme quoi la transition était venue au bout du terrorisme. Mais on en a vu que c'était seulement que temporaire, parce qu'il y avait une accalmie, parce que les deux mouvements fondamentaux du terrorisme au Sahel et dans la région du centre, l'État islamique et le djinnim de Yadagali et d'Amadou Koufa, étaient aux prises. Ils étaient en conflit entre eux pour maîtriser certaines portions du territoire, parce que vous savez, avec la saison pluvieuse, ces mouvements se retrouvent un peu réduits dans leur mouvement avec la montée des eaux, mais avec la saison sèche, ils commencent à se repositionner et à prendre des territoires. Après cela, on peut dire que maintenant l'augmentation des attaques est due au fait qu'il y a eu une sorte de stabilisation entre eux, de cessation de conflits entre ces deux groupes. Maintenant, ils veulent vraiment maîtriser le terrain, mettre le doigt sur des territoires en termes de financement, parce qu'il faut le dire, là où il y a des hommes, ces groupes terroristes se financent dans ces localités, ils prennent la zakat, ils prennent des bétails, ils prennent même des récoltes pour se financer. Donc on peut dire qu'il y a toute cette dynamique qui est un peu mise en cause, et là de cela, on peut dire aussi le retrait français, le retrait de la France, comme une sorte de prise de confiance de la part des terroristes, parce que la France avait une sorte de prédominance en termes de supériorité à aérienne ou des moyens militaires qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, ils savent qu'avec l'armée malienne, beaucoup de ces moyens militaires vont faire défaut. Et là, ils ne doutent plus à faire des attaques et à essayer de prendre des localités.
Est-ce que les dispositions seront prises pour protéger les civils?
Oui, les dispositions seront prises. Maintenant, à quelles dispositions il va falloir se demander. L'État malien, je crois, le ministre de la Défense a fait un voyage en catimini, il faut le dire, en Russie, pour demander plus d'aide en termes de matériel militaire. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation de l'armée sur le terrain, il y a beaucoup à faire. L'armée malienne, il y a beaucoup à faire. Ce n'est pas bon du tout qu'une armée soit empêtrée dans des histoires politiques dans la capitale à Bamako, et cela va le dévoyer de ses objectifs militaires sur le terrain, sur le reste du territoire. C'est ça le problème. S'il y a des mesures, mais les mesures sont insuffisantes, malheureusement.